est passager. Jean veut transmettre aux chrétiens ce qui constitue la vraie communion, une communion profonde,
une communion profonde, durable, authentique, avec Dieu et avec les autres. On comprend ainsi que tout ce qui se dit communion ne l'est pas forcément, et que c'est important pour notre foi et notre vie de reconnaître et de cultiver la vraie communion. Et la communion, c'est un terme un peu piégé dans notre vocabulaire. Il a d'abord un sens ecclésiastique. Selon la tradition catholique, la première communion, c'est une fête de famille, mais aussi une fête religieuse. C'est un rite de passage pour un enfant qui instaure son entrée dans la communion avec Dieu et avec l'Église en recevant l'Eucharistie. L'Eucharistie évoque la mort du Christ pour le pardon de ses péchés, de nos péchés. Et cette idée n'est pas fausse. On l'utilise aussi dans l'idée de la communion de la Sainte Cène, et non sans raison, et nous le verrons tout à l'heure. Puis la communion, les médias emploient ce mot pour évoquer l'émotion partagée, ces instants forts qui rassemblent les hommes et les femmes dans un même sentiment collectif, que ce soit la douleur ou la joie, ou dans le sens de ce que crée un sens d'affinité et de proximité au-delà des différences et des distances du quotidien. Ces expériences collectives, ça peut être au stade de rugby, dans le cortège d'une manif ou à un repas de noces, ces expériences sont souvent exaltantes et font aussi partie de la richesse de notre humanité. Mais est-ce ainsi que nous connaissons Dieu et la vraie communion avec lui? La communion aussi les uns avec les autres, est-ce dans ce genre de contexte? Alors certains courants religieux de l'époque où Jean écrivait cette lettre comprenaient plutôt la communion dans le sens d'une émotion forte, d'une émotion collective, et risquaient d'emmener les chrétiens vers ce besoin, cette recherche d'une expérience en commun. Jean écrit pour préciser ce qu'est la vraie communion, comment la reconnaître et comment la vivre. Le début et la fin de ce texte nous rappellent ce qu'avait déjà dit Jean dans le préambule de sa lettre. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, pour que vous soyez en communion avec nous, en notre communion et avec le Père et le Fils. » Alors on peut noter qu'il fait la référence à une parole annoncée et reçue, puis à Jésus-Christ, son auteur, et enfin au témoin qui transmet cette parole. Il dit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. » Et puis plus loin, à la fin de ce que nous avons lu, « Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez dès le commencement. Ce commandement, c'est la parole que vous avez entendue. » Et pour nous, c'est un rappel important. Nous vivons dans une société où l'affectivité règne. Et ce rappel, c'est que la communion avec Dieu n'est pas dans l'extase, mais dans l'écoute, dans la réception d'un message authentifié qui nous vient du Christ et de ses témoins, les apôtres. Et ça, c'est pas forcément sans émotion. L'écoute et la réception de la parole de Dieu engagent toute notre personne, mais la communion réelle est fondée sur une parole authentique qui nous vient de l'extérieur et non de notre ressenti. Une parole qui s'adresse à nous, qui est en face de nous. Et ceci est vrai pour tous les domaines de notre vie. la vérité de la parole peut entraîner l'émotion, mais l'émotion ne peut pas se substituer à l'autorité de la parole. La communion avec Dieu et la communion les uns avec les autres n'est pas fusionnelle, elle est relationnelle. La communion avec Dieu passe par la médiation de Jésus-Christ et le message que nous avons reçu de lui. De la même manière, la connaissance de Dieu ne passe pas par des rites ésotériques et mystérieux, par des expériences, mais par la transmission et la proclamation de génération en génération de l'Évangile, à partir des écrits et de la parole révélée de Dieu. La communion avec Dieu n'est donc pas un livre à lire, ni un message à entendre, mais quelque chose à vivre. Dieu est lumière, proclame Jean. Mais cette lumière n'est pas à contempler jusqu'à nous éblouir. Cette lumière illumine notre chemin, un chemin où nous devons marcher. Et marcher, c'est justement la deuxième idée forte de ce texte. Tout comme les hommes ne sont pas faits pour regarder le soleil directement, mais pour marcher et travailler grâce à sa lumière, le chrétien n'est pas appelé à une vie de fusion avec le Dieu lumière, mais à une vie cohérente, éclairée par la vérité, par sa lumière. Alors c'est le verbe marcher qui se trouve alors associé à l'idée de communion. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et plus loin à ceci, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit « demeurer en lui » doit marcher aussi comme lui a marché. Marcher, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire vivre. Mais vivre dans le sens de notre vie de tous les jours. Marcher, ça évoque l'empreinte de notre vie sur la terre, pas à pas, chaque jour. Il y a certainement de grandes étapes dans notre voyage, et nous aimons définir nos parcours de vie souvent par elles. Mais la Bible nous dit que la marche, c'est des actions, les réactions, les paroles et les pensées que nous avons tous les jours. C'est elles qui nous définissent. La communion avec Dieu et les uns avec les autres ne peut être séparée de notre comportement. Comportement qui doit être en accord avec la vérité, la justice et l'amour de Dieu. La connaissance de Dieu ne peut pas être séparée de ses commandements, de ce que nous avons reçu de lui. Et ce serait en tout cas une hypocrisie de se considérer en relation avec Dieu et de ne pas tenir compte de ses paroles dans notre vie quotidienne. La communion avec Dieu ou la connaissance de Dieu n'est pas une expérience de stade ou de concert, ni de rite ancien et mystérieux, ni de rite moderne d'ailleurs, mais c'est un comportement journalier. C'est nos rires, nos pleurs, notre emploi du temps, nos choix éthiques. Tout cela doit être éclairé par la parole de Dieu, la parole reçue, qui nous montre et qui nous fait connaître le Dieu que nous voulons suivre, qui nous montre comment marcher à son rythme, sur son chemin. Et il est important de suivre son chemin et pas le nôtre. Hier, un calendrier nous proposait un verset dans le psaume 5. C'est David qui disait « Éternel, conduis-moi dans ta justice, aplanis ta voix sous mes pas. » Ce n'est pas « aplanis ma voix », c'est « aplanis ta voix sous mes pas ». Cependant, Jean nous rappelle que marcher dans la lumière, ou faire la vérité, ou garder ses commandements, et ces trois expressions de Jean expriment la même réalité, ce n'est pas tant à faire de suivre des instructions que de suivre un exemple. Quand Jean dit « Celui qui dit « demeurer en lui » doit marcher comme lui aussi a marché », il évoque la vie réelle, historique, la vie humaine de Christ sur cette terre, Dieu avec nous, homme parmi les hommes. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et donc, marcher dans la lumière de Dieu, c'est marcher comme Jésus-Christ, son Fils, a marché. C'est tenir compte de sa parole, de ses commandements, mais de son exemple. Et Jacques nous le rappelle, Jacques, le frère du Seigneur, nous le rappelle dans le premier chapitre de sa lettre. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On est appelé à suivre l'exemple de Jésus. Pourquoi suis-je appelé à pardonner? Simplement parce que Dieu, mon Père, m'a pardonné. C'est Paul qui dit aux Éphésiens, « Soyez bons et compatissants les uns avec les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Christ a pardonné à ses bourreaux. Il nous a dit « Aimez vos ennemis ». Suivons son exemple, même si pour nous ce n'est pas du tout naturel. Suivre son exemple, c'est aussi l'exhortation de Paul, quand il dit « Soyez mes imitateurs », les imitateurs de Paul, pas seulement, « comme je le suis moi-même de Christ ». Ne dit-on pas « tel père, tel fils » Alors, marchons comme lui a marché. La vraie communion avec Dieu et les uns avec les autres, c'est donc de vivre en accord avec la parole de l'Évangile que nous avons reçue de Jésus-Christ, lumière du monde. Et ça, c'est clair dans le texte. Et cela nous laisse cependant dans la difficulté, et Jean n'y est pas insensible. Il sait que nous trébuchons, que notre marche dévie de son chemin et souvent emprunte des chemins obscurs, des chemins de traverse. Et Jean dit à peu près au milieu du texte que nous avons lu, et je pense que c'est la partie vraiment la plus importante, parce qu'elle nous libère de notre douleur de nous savoir pécheurs, sans pour autant nous décharger de notre responsabilité de marcher dans la lumière. Et pour résumer la pensée de cette portion de texte, je vous suggère de retenir le verbe qu'on trouve dans d'autres traductions, et dans la seconde en particulier, « confesser ». Et dans la seconde, ce texte dit « si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Or, confesser, c'est quoi? Un synonyme de confesser. Avouer? Avouer? C'est la définition un peu que donne Larousse. Hein. Confesser, avouer quelque chose, le déclarer, le reconnaître pour vrai. Dans notre vocabulaire chrétien, on confesse nos péchés et on confesse aussi notre foi. Confesser notre foi, c'est dire haut et fort le contenu de l'Évangile. C'est ce que fait Jean dans ce texte. Jean, le témoin, l'apôtre, confesse, proclame et rappelle que Jésus-Christ, le juste, est notre défenseur, notre avocat auprès de Dieu le Père. Il rappelle que Jésus-Christ a payé lui-même la dette de notre péché, et pas seulement de notre péché, de ceux du monde entier. Et les ténèbres sont tombées sur lui pour que nous puissions en être délivrés, être purifiés de toute notre injustice, afin de vivre en communion avec Dieu, les uns avec les autres, dans la lumière et dans une vie nouvelle, avec une nouvelle façon de marcher, de nous comporter. Confesser notre péché se trouve alors en accord avec notre confession de foi. Confesser notre péché, c'est marcher dans la lumière. Confesser notre péché, c'est faire la vérité. Confesser notre péché, c'est garder sa parole. Dire que nous n'avons pas de péché, que nous n'avons rien à confesser, nous croire irréprochables devant Dieu et devant nos frères, c'est tomber du côté de l'obscurité et du mensonge. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alors sans la confession de nos péchés et la confession de notre foi en Christ, en qui nos péchés sont pardonnés, il n'existe pas de communion avec Dieu et non plus pas de communion les uns avec les autres, fraternels et communautaires. Marcher veut dire aussi confesser. Et ceci est vrai non seulement au début de la vie chrétienne, pour l'accès premier à la communion à Dieu, mais tout au long de notre marche avec lui. Marcher dans la lumière de Dieu implique forcément de faire le bien et de ne pas faire le mal. Mais au cours de notre vie, nous faisons aussi le mal. Paul le confessait aussi. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Ce mal que nous faisons, ça perturbe notre communion avec Dieu et avec nos frères. Et Jean nous rappelle que quand nous trébuchons, l'important c'est de se relever. Et de se relever au plus vite tant qu'à faire. Qu'il vaut mieux confesser que de rester à l'écart de la lumière, en train de mentir à nous-mêmes et de mentir aux autres. Nous confessons alors que le Christ est mort pour le pardon de nos péchés, mais que bien plus, il est ressuscité, qu'il est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Alors c'est pourquoi le mot communion a pris un sens ecclésiastique, le sens de la participation à l'Eucharistie ou à la scène. Il n'y a pas de communion avec Dieu, il n'y a pas de communion entre nous, sans la médiation de Jésus-Christ, mort et ressuscité, et intercesseur auprès de Dieu pour le pardon de nos péchés. Christ est juste, comme Dieu est juste lui-même. Lumière comme Dieu est lumière. Mais ce Christ, juste et lumière, a pris notre place de pécheur et son sang nous purifie de tout péché. La scène, par le partage du pain et du vin, rappelle cette mort, cette résurrection, mais pas seulement. Elle rappelle aussi l'intercession constante de Christ pour nous. Lors de la scène, nous confessons notre péché, nous confessons notre foi, la foi à l'évangile de Jésus-Christ que nous avons reçu et qui seul donne de vivre la véritable communion avec Dieu, les uns avec les autres, qui seul nous permet de marcher dans la lumière, pas seulement le dimanche matin, tous les jours. Alors que ce soit une réalité pour nous, pas seulement maintenant, mais tous les jours de la semaine, dans notre vie et dans notre comportement au quotidien. C'est important. Amen.
J'ai proposé que l'on chante le cantique 70. À Dieu soit la gloire.